Tu sais, le monde du plongeon, c'est vraiment un monde qu'on grandit ensemble, tu sais. Fait que j'ai 25 ans, je fais juste du plongeon. Le monde me connaît juste pour gagner des médailles, puis là, j'en ai pas eu. Fait que qui suis-je?
Bienvenue à Propulsion, un balado réalisé par le Comité olympique canadien. Au cours de cette saison de Mon parcours, nous entendrons les histoires de quelques-unes des femmes les plus inspirantes d'Équipe Canada, alors que nous tournons notre attention vers les Jeux de Paris 2024. Je suis votre animatrice, Justine Dufour-Lapointe, et j'ai représenté le Canada lors de 3 Jeux olympiques d'hiver aux épreuves de bosse de 2014 à 2022. Ayant performé sur la scène mondiale, je connais les hauts et les bas de la vie d'athlète d'élite, en particulier à l'approche des Jeux olympiques. J'ai tellement hâte de partager avec vous les parcours de ces athlètes exceptionnels et de célébrer ensemble les femmes incroyables d'Équipe Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jennifer Abel, double médaillée olympique en plongeon pour Équipe Canada. À l'âge de 16 ans seulement, Jennifer a fait ses débuts olympiques aux Jeux de Pékin en 2008. Elle a ensuite poursuivi son parcours olympique en prenant part aux Jeux de Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020. Aux côtés d'Emily Hemen, Jennifer a décroché sa première médaille olympique en 2012, le bronze aux 3 mètres synchronisé. À la même épreuve en 2020, elle a remporté l'argent accompagnée de Mélissa Cetrini Beaulieu. Sa résilience et son dévouement au sport ont inspiré de nombreux jeunes athlètes partout au Canada et dans le monde entier. Jennifer a annoncé sa retraite du plongeon de compétition en novembre 2021, laissant derrière elle un héritage d'excellence pour le plongeon canadien. Aujourd'hui, Jennifer est mère de 2 jeunes garçons et prend le temps de choisir ce qu'elle veut faire de ce prochain chapitre de sa vie. Nous avons une conversation très inspirante sur les défis auxquels les athlètes sont confrontés, dont le maintien d'une santé mentale équilibrée, puis la pression constante de performer sur demande. On a aussi abordé comment le fait d'être devenue mère a changé sa vision de la vie. Salut Jennifer!
Salut Justine! Ça va bien toi?
J'aimerais commencer. Tu as commencé le plongeon et à faire des compétitions à un très jeune âge, à l'âge de 5 ans seulement, si je me trompe pas.
4 ans.
4 ans?
Oui, 4 ans. Oui.
C'est très jeune. Oui. Et puis tu as participé à tes premiers Jeux olympiques à 16 ans. Dans l'article que tu as rédigé en 2021 pour olympique.ca intitulé la lettre à la petite fille qui voulait plonger, tu as écrit que tu voulais juste être dans l'eau tout le temps. Peux-tu nous parler d'abord de ton amour pour l'eau et de ton parcours dans le domaine du plongeon?
Quand que je plongeais, j'aimais juste vraiment ça, être dans l'eau. J'aimais la sensation que le plongeon me procurait dans les airs. Tu sais, c'était vraiment spécial, ça me challengeait. Ça l'ouvrait des portes que on peut pas retrouver quand on est juste comme ça assise ou en train de jouer au parc. Tu sais, moi, il fallait vraiment que je dépense mon énergie. Fallait que je saute, fallait que je bouge. Puis tout ça, en étant dans l'eau, c'est ce que j'aimais vraiment beaucoup. Puis, j'ai jamais rêvé aux Jeux olympiques. Tu sais, je faisais vraiment ça parce que j'aimais ça.
Wow! La passion était au tout début. Puis, j'avais entendu dans une entrevue qu'au début, en fait, tu faisais de la natation, plus de la nage synchronisée. Comment que tu as fait ton switch au plongeon, finalement, à 4 ans, de choisir « Non, moi, c'est le plongeon qui m'intéresse ».
Pour mes parents, c'était super important que moi et mon frère, on sache nager puis qu'on soit impliqués dans le sport. Donc, mon frère, lui, faisait de la natation et du plongeon. C'était à l'école secondaire Père Marquette. Donc, c'était vraiment un petit club où est-ce qu'il offrait tous les loisirs aquatiques. Puis, par la suite, moi, je faisais de la natation et de la nage synchronisée qui, aujourd'hui, est de la natation artistique. Donc, ça n'allait vraiment pas bien. Là, j'étais pas très bonne. Je trouvais ça dur. Puis je voyais mon frère sauter, puis ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis après avoir fait mon spectacle de fin d'année de natation artistique, j'ai dit à mes parents, je veux pas faire ça, moi je veux sauter comme mon frère. Tu sais, je veux retrouver cette sensation-là de l'adrénaline, être dans les airs et tout. Puis c'est comme ça qu'on a fait de la transition.
Tu l'as dit au début de l'entrevue que c'était pas ton rêve d'aller aux Jeux olympiques. Mais comment, à un moment donné, tu as eu ce rêve-là? Comment ce rêve d'aller aux Jeux olympiques est né pour toi?
Tu sais, je m'en souviens aux Jeux de 2000 à Sydney. Moi, je plongeais au club de plongeon Camo à cette époque. Puis, il y avait organisé une petite soirée pour encourager les Canadiens qui plongeaient dans cette journée-là. Puis on s'était tous réveillés à comme 4 heures du matin pour aller au Centre Claude-Robillard. Puis c'est vraiment là la première fois que j'ai vu les Olympiques, mais j'étais beaucoup plus excitée sur le fait de me réveiller à 4 heures du matin puis aller voir mes amis que d'aller vraiment regarder leurs performances. C'est vraiment en 2008 où est-ce que mes performances, elles allaient bien, puis que mon entraîneur, il m'a dit, tu sais, si tu mets vraiment toutes les chances de ton bord, tu as des chances d'aller aux Jeux olympiques. Puis dans ma tête, j'étais plus comment, ben, tu sais, 2012, ça serait plus réaliste, parce qu'à 16 ans, tu sais, on pense pas aller aux Jeux olympiques à 16 ans. Puis là, je me suis dit, bon, ben, si ça l'arrive, ça l'arrive. Sinon, ben, c'est pas grave, tu sais, c'est pas mon année. Puis finalement, effectivement, j'ai fait tous les sacrifices que j'avais à faire, surtout côté académique. Puis j'ai mis toutes mes fruits dans le même panier, puis ça a porté fruit.
Tu avais seulement 16 ans à tes premiers Jeux olympiques. Tu étais la plus jeune de la délégation canadienne. Comment c'était d'avoir cette pression-là à un si jeune âge?
En fait, la beauté de tout ça, c'est que j'en avais pas de pression. Parce que moi, dans le fond, j'avais jamais fait de championnat du monde, de coupe du monde, de jeux panaméricains, comme une mort. C'était vraiment mon premier grand jeu, ça a été les Olympiques. Puis en 2008, je plongeais au 10 mètres, puis à cette époque-là, je pensais que j'allais être une plongeuse de 10 mètres. Vraiment, c'est, tu sais, mon entraîneur César Anderson qui m'a dit « Non, 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 on va se concentrer aux 3 mètres, t'as plus de chance, puis ton physique est plus aussi faite pour le 3 mètres. » Puis là, dans ma tête, j'étais comme « Ah, il sait pas de quoi qu'il parle. » Tu sais, à 16 ans, on a un peu cette innocence-là. Fait que j'ai arrêté de faire 10 mètres, je me suis concentrée aux 3 mètres, j'ai participé à mes premiers Jeux. J'avais fait peut-être 2-3 compétitions internationales seniors aux 3 mètres, là, juste pour dire comment que j'arrivais aux Jeux, j'avais aucune pression. J'étais vraiment dans l'innocence de juste vouloir bien performer.
Puis après, t'as passé un autre 4 ans à t'entraîner, à te diriger vers tes prochains Jeux de Londres. C'était quoi ton focus? C'est quoi la différence pour toi entre ces deux Jeux-là?
Ben, c'est vraiment à partir, dans le fond, des Olympiques de 2008 que j'ai pris le goût à vouloir performer, à vouloir être meilleur, à vouloir avoir des médailles, peu importe la compétition que je prenais part. Tout ça s'enchaînait de façon normale avec les championnats du monde, les Jeux panaméricains, les Jeux du Commonwealth. T'sais, là, je voyais le vrai cycle olympique, t'sais, pour la première fois. Mm-hmm. Puis, en 2010, j'ai commencé à faire synchro avec Emily Emmons, qui est un grand nom dans le monde du plongeon. Puis, c'est vraiment là que j'ai compris l'aspect de la pression, tu sais, parce qu'Émilie, en fait, elle avait l'opportunité de devenir la première femme à avoir 4 médailles en 4 jeux consécutifs. Ça, c'était dans l'épreuve que je faisais part avec elle en individuel. Donc, pour moi, quand j'allais à Londres, c'était pas pour moi, c'est vraiment genre, je ne veux pas être celle qui lui fait manquer cette opportunité-là. Puis, heureusement, on l'a eu, mais... Tu sais, je m'en souviens, là, la veille, je faisais tellement de l'anxiété, je faisais des cauchemars, je dormais pas bien, parce que justement, même si on me l'aurait pas dit, moi, je me le serais dit, tu sais, à cause de toi, elle a pas eu cette opportunité-là, tu sais, puis je voulais pas avoir ce titre-là.
Puis à ce moment-là, t'avais-tu de l'aide pour t'aider avec toute cette pression-là ou tu la gardais en dedans?
Je la gardais en dedans. Je pense qu'on a commencé à avoir de l'aide, mais ça c'est venu plus tard dans ma carrière.
Je pense que tu étais jeune, clairement. C'était seulement tes deuxièmes Jeux. Oui. D'avoir autant de pression, c'est quand même énorme. Puis, j'avais pas imaginé à quel point la différence de ta partenaire pouvait t'affecter toi aussi en tant que jeune athlète. Puis, je pense que dans le temps, en fait, avoir eu ton âge, je sais pas si j'en aurais parlé moi non plus, tu sais.
Mais j'ai comme l'impression que c'est camouflé. C'est comme si c'est normal. Tu sais, puis j'en ai fait des cauchemars vraiment pas normales. Genre, tu sais, j'en parlais, puis tout le monde est comme « Ah, c'est pas normal, ça. » Je suis comme « Non, mais c'est correct. » Tu sais, puis à 21 ans, en 2012, j'avais 21. Tu sais, on vit dans notre monde athlétique. Pour nous, tout tourne alentour de ça. Tu sais, on se rend pas compte qu'il y a une vie à l'extérieur de ça, tu sais. Donc, pour moi, c'était comme ça, puis c'était ça la vie. Puis, tu sais, j'en parlais avec mes coéquipiers, coéquipières, mais c'est pas encore populaire, si je peux dire ça de même, de demander de l'aide. C'était pas aussi donné comparativement à aujourd'hui.
Donc, t'as dû avoir un immense soulagement quand vous avez gagné cette médaille-là ensemble, j'imagine, après tous ces cauchemars. C'était quoi le feeling pour toi de gagner ta première médaille?
Tu sais, je m'en souviens, dans le fond, nous, on faisait 5 plongeons. Le 4e, c'était lui qui était le... C'est soit qu'on l'a la médaille ou non. T'sais, c'était vraiment un plongeon très difficile, surtout pour moi. Puis quand je suis rentrée dans l'eau, puis je suis tombée sur la tête, mon cœur s'est tellement pincé, comme je pensais que je faisais une crise cardiaque littéralement là, genre j'avais mal au cœur, ben comme ah, c'est pas mon cœur là, mais genre j'avais mal, puis j'avais de la misère à respirer, puis j'étais comme on l'a eu, puis là mon entraîneur était comme ok, respire, calme-toi, il en reste encore un, tu sais, garde le focus, fait que c'est pour quand qu'on l'a eu, tu sais, honnêtement c'était même pas comme un genre de sauter dans les airs, puis c'était vraiment juste un soulagement, tu sais, à ce moment-là j'ai pleuré, c'était plus comme un comme oh phew, on dira pas ça de moi.
Après, quand cette pression-là, justement, elle a relâché, comment ça a été ton retour à la maison?
Ben dans le fond, une semaine plus tard, je participais à l'individuel. Puis encore là, j'avais une bonne chance de médaille, mais on dirait qu'à cause que j'avais eu ma médaille, c'était comme oublié un peu parce que, tu sais, encore là, manque de maturité et tout. Je voulais juste participer puis faire la finale puis bien faire et non comme vraiment avoir une médaille. C'était pas ça qui me définissait encore, tu sais. Je préférais encore garder mon innocence puis de vouloir juste bien performer puis plonger puis pas penser à ça.
Puis ensuite, comment ça a été le changement, mettons, dans ta tête quand tu t'es dirigé vers tes troisièmes jeux?
Donc, mes troisièmes jeux, c'est vraiment là que, tu sais, mettons, j'ai pris une maturité. J'ai fait un 360 dans le fond. Tu sais, j'ai changé d'entraîneur, j'ai changé de club de plongeon, j'ai changé vraiment tout parce que il y avait eu à cette époque-là, ben tu sais, le départ d'Émilie, elle avait pris sa retraite, Alexandre aussi. Puis ça pour moi, c'était deux personnes qui étaient très importantes dans ma carrière parce qu'on était toutes aux 3 mètres. Fait que tu sais, j'avais perdu mes mentors un peu, j'avais perdu mes repères, donc. J'ai décidé de faire un 360, changer d'entraîneur, changer de club, parce que pour moi, je pensais que c'était la meilleure chose, et ce fut la meilleure chose pour moi aussi, là. Mais à ce moment-là, j'étais convaincue, j'étais comme, tu sais, c'est ça qu'il me faut, si je veux me rendre plus loin, c'est ça qu'il me faut. En fait, mon nouvel entraîneur de l'époque était Arturo Miranda, puis lui entraînait Alexandre, puis c'était aussi son partenaire de synchro, donc je savais qu'il y avait une vision de l'entraînement, puis de la performance qui était celle que je voulais avoir moi aussi, puis qui était plus nécessairement dans l'innocence, mais vraiment de je veux avoir des bonnes performances, je veux gagner, je veux battre les Chinois, tu sais, je veux vraiment qu'on entende l'hymne national pour nous, tu sais, les Canadiens et Canadiennes. Pis ça a super bien été, on a travaillé fort là-dessus. Puis j'ai eu de très bons résultats jusqu'à temps que j'arrive à mes troisième jeu, en fait, qui est à Rio. 2 mois avant les Jeux, j'ai vécu ma première blessure en carrière, tu sais. Dans le fond, j'ai eu un étirement du mollet, fait que je pouvais plus marcher. Fait que j'ai été 4 semaines sans pouvoir m'entraîner. Ça, à 2 mois des Jeux, tu sais, le monde, ils s'en rendent pas compte, ils sont comme « Ah, c'est 2 mois, c'est correct. » Non, non.
Non, non.
C'est parce qu'à 2 mois des Jeux, tu sais, t'es comme « Ah, OK, mais tu capotes pas
proche.
Trop. » Oui, ça l'approche, mais tu te dis « OK. » 4 semaines, je peux quand même me maintenir en forme, j'y connais mes plongeons, on va travailler différemment, puis je vais avoir un autre 4 semaines pour juste bonifier les petits détails qui manquent, je vais être correct. Fait que ces 4 semaines-là, on commence à faire beaucoup de ceinture dans l'eau parce que je pouvais pas sauter, fait que c'est ce qu'on a fait comme stratégie. Là, je commençais à avoir une douleur dans le dos, mais tu sais, j'étais comme, non, on va pas en parler, déjà que j'ai mal au mollet, c'est pas le temps, tu sais. On va prendre deux, trois Advil, puis ça va passer. Puis après ça, ça l'a tourné. Quand je suis revenue, parce que là, mon mollet, il restait juste 4 semaines, fait qu'on a mis la machine à on, puis ma douleur au dos était pas partie. Ça s'est transféré en choc neural. Fait que quand je sautais, j'avais des chocs qui me passaient du bassin jusqu'à dans mes jambes. Fait que je pouvais plus prendre mes positions dans les airs, je pouvais plus marcher, je pouvais plus conduire. Fait que ça a été un autre 2 semaines à rien faire, à aller en physio à tous les matins. Puis encore là, c'était comme, tu sais, j'avais mis mes œillères, puis j'essayais d'enlever toute distraction. Puis ça faisait partie d'une grosse distraction à 4 semaines des Jeux. Puis, tu sais, je m'en souviens, j'étais allée à la piscine, puis mon entraîneur, Arthur, il était comme, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, ben, je viens m'entraîner. Il est comme, non, qu'est-ce que tu comprends pas? Il faut peut-être te reposer, comme en ce moment. Si t'es ici, tu vas empirer, comme, va-t'en chez toi. Puis j'étais comme, toute ma vie, tu m'as dit qu'il fallait que je m'entraîne pas, puis qu'il fallait que je sois ici. Puis là, tu me dis de m'en aller chez moi à 2 semaines. Tu sais, c'était vraiment pour moi, mentalement, ça fonctionnait pas. Tu sais, l'aspect de prendre du repos avant les Jeux, c'était comme impensable. Mais j'ai pas eu le choix parce que je pouvais pas m'entraîner quand même. Donc, je suis partie à la maison, tu sais, un petit peu la tête penchée. Puis, par la suite, ben, tu sais, là, je suis allée au jeu, ça allait bien, on a guéri tous les bobos. Mais, tu sais, j'avais quand même une grosse pression parce que là, c'était, j'y allais pour 2 médailles. Première épreuve, j'ai fini 4e par même pas 1 point. Là, il fallait que je me remette de ça. 1 semaine plus tard, je finis encore 4e. Wow. Puis tu sais, toi, tu le sais, mais les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour de vrai, 4e place, c'est la pire place. J'aurais préféré finir 5-6 et non 4e parce que t'es la première à pas avoir de médaille. Puis entre 4e et 3e, tu sais, il y a vraiment, la marge d'erreur là, est très, très minime. Là. C'est vraiment minime. C'est, tu sais, des fois, c'est, on peut se dire comme ça que c'est une question de... c'est ce juge-là, cette journée-là, te l'a juste pas donné, tu sais. Ou t'as manqué le demi-point. Si on t'avait juste donné un demi-point de plus, tu l'aurais eu, tu sais. Mais au bout de la ligne, j'avais fait 3 belles performances. J'ai vraiment tout donné. Puis tu sais, je m'en souviens que mon dernier plongeon en individuel, je savais que j'étais en tête pour avoir une médaille. T'sais, j'étais sur la planche puis je shakais, tu sais, tellement que j'avais peur. Encore là, qu'est-ce qui était dans ma tête, c'était faut pas que tu manques parce que si tu manques, le monde vont dire que t'as, entre guillemets, choqué, tu sais, t'as cédé à la pression, tu sais. Fait que je m'en souviens à ce moment-là, ce qui m'a ramené, c'était vraiment de penser à ma nièce. Qu'à ce moment-là, j'étais comme, au moins, elle va être fière de toi dans tout ce que tu vas faire, tu sais. Fait que ça a super bien été et tout, mais j'ai fini 4e. Puis, sur le coup, j'étais contente parce que, tu sais, je me suis battue jusqu'à la fin, j'avais eu des blessures et tout. Mais c'est le après se le faire dire, tu sais. Quand t'es en entrevue, puis, ah, oh, tu dois être triste. Ben, attends une minute, là, j'étais pas triste, mais là, que tout le monde me le dise, ben, tu sais, c'est comme si on dirait que je me le suis fait donner d'être triste, tu sais. C'est, ah, oh, tu dois être triste. Ben, je l'étais pas, mais là, ça fait comme 4 personnes qui me disent ça, fait que, ben, peut-être que je devrais être triste. Fait que, c'est quand je suis revenue à la maison que c'est là que ça, c'est comme le gros choc est revenu. Et c'est vraiment là que ça a fait comme, OK, là, je vais pas bien. Tu sais, là, je pleurais beaucoup. Tu sais, je m'isolais beaucoup parce que justement, je voulais pas montrer que j'étais triste. Mais au fond de moi, tu sais, j'étais super triste. Chaque fois que je refaisais un plongeon pour la première fois depuis les Olympiques, je pleurais. Fait que j'avais vraiment perdu la flamme. J'avais perdu l'amour pour mon sport. Tu sais, je faisais ça parce que c'était ça la vie, tu sais. Mais j'aimais plus ça, j'avais plus le sourire. Tout le monde me disait, tu sais, Jen, t'as l'air triste, t'es plus la Jen souriante. T'sais. Puis j'étais comme, non, ça va. Puis il y avait juste avec mon entraîneur que, tu sais, je disais, tu sais, je suis pas heureuse, j'aime plus ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse d'avoir une belle connexion avec lui parce que c'est à force d'en parler qu'on a trouvé des différentes stratégies. En 2017, j'ai été à mes championnats du monde, qui étaient à Budapest, puis j'avais gagné 3 médailles. C'est vraiment la 3e médaille, en fait, c'est ce qui m'a rendue en égalité avec Alexandre Despatie puis Ryan Crocken à l'époque pour être l'athlète canadienne la plus décorée, tu sais, du Canada au championnat du monde aquatique. Fait que pour moi, c'est là que j'ai fait comme, OK, attends une minute, tu sais, il y a pas juste les Olympiques là, qui comptent, tu sais.
Effectivement. Non, vraiment.
Puis, ouais. C'est vraiment là que j'ai fait...
Okay, ça suffit.
Wow. Ça suffit, ouais, c'est ça. Ça suffit de me le faire rappeler que j'ai fini 4e. Ça suffit. Tu sais, il n'y a pas juste ça dans la vie, tu sais.
Je pense
que ça a donné une toute autre tournure.
Je t'entends et quand je t'écoute, tu as tout fait pour te rendre à tes 3e jeux.
Mm-hmm.
Tu étais blessée à 4 semaines.
Oui.
Tu as vraiment tout donné. Tu n'avais aucune raison de ne pas être fière.
Oui. Mais
le public t'a donné ce miroir. T'es 4e, tu ne devrais pas être fière. La société me dit, t'as pas gagné, t'es pas bonne.
Mais c'est vrai, oui.
Mais c'est pas vrai.
Ouais.
Tu sais, tu avais toutes les raisons, en fait, d'être encore plus fière de toi parce que tu avais montré à quel point t'étais résiliente. T'aurais pu juste dire, OK, ciao, bye, je m'en vais pas.
Ah oui, 100%, oui.
Mais t'as continué à travailler puis à pousser puis à te rendre à ces jeux-là avec une fierté puis de finir 4e. Puis pour moi, c'est une belle preuve de résilience.
Ouais.
Puis je suis contente que tu aies eu la force de retrouver l'amour pour le plongeon. Mais il y a aussi, ce que j'ai vu dans les entrevues, il y a aussi ta nouvelle partenaire, Mélissa, qui t'a redonné aussi la passion de plonger. Peux-tu me parler de cette rencontre-là?
Ben, en fait, Mélissa, tu sais, je la connais depuis qu'elle a 7 ans. Tu sais, le monde du plongeon, c'est vraiment un monde qu'on grandit ensemble, tu sais. Fait que j'ai 25 ans, je fais juste du plongeon, Le monde me connaît juste pour gagner des médailles, puis là, j'en ai pas eu. Fait que qui suis-je? Fait que pour moi, c'était vraiment important de me retrouver en tant que plongeuse. Après les Jeux de Rio, c'était comme, je veux plus faire du synchro, je veux juste faire de l'individuel, parce qu'il me manquait juste une médaille. Il me manquait juste une médaille sur mon parcours, dans ma carrière, puis c'était celle, ma médaille olympique en individuel. Par la suite, j'aurais été médaillée dans toutes les épreuves que j'ai pris part. Fait que pour ça que, tu sais, je voulais vraiment juste faire de l'individuel. Puis là, Arthur était comme, non, tu sais, je pense que on devrait quand même donner sa chance au synchro, puis peut-être juste y aller avec Mélissa, tu sais. Puis Mélissa, c'est une fille qui est tellement enjouée. Elle était à ce moment-là la Jennifer 2008, tu sais. Elle rentrait dans l'innocence. Elle voulait voyager. Elle appréciait là, chaque moment, tu sais. Fait qu'elle, elle avait genre moi qui était au début genre super grincheuse, puis elle qui était comme toute genre « Wow, on s'en va là, wow, on s'en va là. Hey, on a performé, on a eu une médaille, tu sais. » C'est elle, dans le fond, qui m'a ramenée à la Jennifer d'avant, tu sais. Comment j'ai commencé à performer? Ben, c'est parce que j'aimais ça, puis c'est parce que je voulais juste vivre, tu sais, être heureuse. Puis c'est elle qui me disait souvent, tu sais, Jen, en ce moment-là, on est en Chine. Toi, t'es là en train de chialer, ah, tu sais, j'aimerais mieux être dans mon lit. Mais on est en Chine, tu sais, qui a la chance de voyager le monde de même?
Ouais.
Là, tu sais, puis là, sur le coup, t'es fâchée parce que t'as pas eu un bon entraînement, mais après ça, t'es dans ta chambre, tu sais, dans ton lit, puis t'es comme, tu sais, elle a raison. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, genre que on est choyé d'avoir cette vie-là, puis on est chanceux de pouvoir voyager. Tu sais, c'est un luxe là, de faire le tour du monde, tu sais. Fait qu'elle m'a ramenée sur Terre un peu, dans le fond.
Wow! Oh my God, ça me donne des frissons, vraiment. je trouve ça tellement beau de voir à quel point la roue, elle tourne.
Ouais.
Elle tourne dans le sens que t'étais la jeune Jennifer, innocente, puis finalement, c'est une autre bébé jeune. Mm-hmm. Mélissa, ouais. Qui t'a ramené à la passion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'évidemment, Mélissa t'a donné la passion de vouloir continuer pour un quatrième Jeux olympiques. On s'entend,
oui.
Tokyo. J'ai été témoin des Jeux de Tokyo. On a tous été là pendant la COVID, mais les Jeux de Tokyo ont été reportés d'un an. C'était une première. Là. Ça s'est jamais vu dans le monde entier. Ça s'est jamais vu avant. D'être dans un monde d'incertitude, comment ça vous a affecté, vous deux, dans votre préparation pour ces Jeux-là?
Je peux pas parler pour Mélissa parce que c'était ses premiers Jeux. Fait que pour elle, c'était comme, tu sais, j'y vais n'importe quoi qui arrive, qu'il soit repoussé dans 5 ans, ça me dérange pas, je vais être là, tu sais. Mais moi, je savais que c'était 2020, c'était fini après, tu sais. J'avais déjà mes plans... de fonder une famille avec mon fiancé puis tout. Fait que je m'en souviendrai toujours, là, c'était au mois de mars. On avait déjà commencé l'année olympique. On revenait d'une compétition, les séries mondiales, puis j'avais gagné 3 médailles d'or. T'sais, ma flèche était là, elle était on point. J'étais vraiment genre sur la bonne route. Là. Physiquement, ça allait bien, j'étais super en forme. J'étais comme, je veux performer, gagner. Puis là, bon, mais il y a un virus.
X, là.
C'est ça, tu sais. Puis, mais plus que sur mon X, parce que j'avais du fun. Wow. Je savais ce que je faisais. Je savais que comment aller chercher ma performance que je voulais. Tu sais, le mindset, il était à bonne place, tu sais.
En pleine confiance.
Chose que je n'avais pas avant, tu sais.
Je comprends.
Puis là, c'était au mois de mars. Puis là, il y a un virus à travers le monde, mais ça n'avait pas encore atteint le Canada, mettons. Puis là, au mois de mars, tout est confiné. Tout le monde reste à la maison. Sur le coup, tu sais... Je pense que toutes les athlètes, la première semaine, on était toutes contents parce qu'on avait une semaine off. Je sais pas pour toi, en tout cas, mais moi, j'étais contente. J'étais comment qu'il y ait une semaine off, c'est correct. Puis là, la semaine, elle s'est changée en mois. Puis là, le mois s'est changé en année. Puis là, t'sais, après ça, on se faisait dire on peut plus retourner à l'entraînement, on peut plus sortir d'un rue. Puis là, les Olympiques, bam, ils sont repoussés d'un an. Pis là, c'était du tout nouveau pour nous parce que, en tout cas, pour moi, parce que pour la première fois de ma vie, j'avais un long break. Fait que j'étais comme, OK, c'est ça la vie à la retraite, mettons, tu sais. Que t'as pas besoin de te lever à chaque matin, même si t'as pas mal au corps. Tu te fais pas dire, mettons, non, c'est pas assez bien, non, il faut travailler plus. Fait que ça, je pense, pour moi, ça a été vraiment difficile de retourner à l'entraînement parce que j'ai vraiment pris goût à ça. T'sais, le pas me faire juger au quotidien. Fait que là, retourner... Au mois de juin, ça a été dur.
Comment t'as fait, justement, durant ce moment-là d'incertitude qui était immense? Comme, à quel point t'étais décidée, finalement, de dire « OK, je suis prête à attendre une autre année? »
Je pense que c'est c'est triste à dire un peu, mais c'est que t'as pas le choix. tu me comprends, là?
Oui, c'est la vraie réponse.
Puis même si t'es heureux, pas heureux, c'est ça la vie, c'est ça que tu connais. Ça faisait 25 ans que c'est ça que je faisais. Fait que c'est comme quelqu'un qui s'en va au travail, tu te poses pas de questions, tu te lèves, tu y vas. Mais ce qui était difficile, c'est qu'on s'entraînait sans objectif. Pourquoi on s'entraîne? Je sais même pas si je vais pouvoir ressortir du pays un jour. Je sais même pas. On n'a plus de compétition. C'est comme, pourquoi je vais là? Puis là, je m'entraîne. Puis là, c'est dur. Puis là, j'ai mal parce que je retourne à l'entraînement. Mes plongeons, ça va pas bien. Puis là, ben évidemment, mentalement aussi, ça va pas bien. Puis c'est là vraiment que j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Si je veux me rendre au jeu, j'ai pas le choix d'aller chercher de l'aide à l'extérieur du centre, là, dans le fond, de mes entraîneurs et tout. Parce que sinon, j'aurais pas pu me rendre.
Mais moi, je veux savoir, tu n'avais jamais avant demandé de l'aide psychologique jusqu'à ce moment-là?
J'en avais reçu, mais c'était pas de la même façon. Fait que dans le fond, l'aide qui m'a été offerte, c'était plus, mettons, comment savoir performer versus ça va pas bien. Mais là, cette fois-ci, tu sais, ce que je disais, c'est non, j'ai besoin d'aide, tu sais. Faut que je parle avec quelqu'un qui va pas nécessairement me juger ou qui va m'aider à aller mieux mentalement puis à être capable
pas juste pour
de me
performer.
Rendre. Non, c'est ça. Oui, ça, mais son aide à elle va m'aider à bien performer.
Exactement.
Mais j'ai pas besoin de savoir comment performer, je le sais comment performer. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment être retrouvé ma joie de vivre, me lever au quotidien puis dire ah, OK, je m'en vais m'entraîner, là ça me tente, tu sais. Parce que performer, c'est correct, là, je sais comment faire. Ça fait 25 ans que je fais ça, je le sais.
Est-ce que tu avais peur que ça affecte ta performance pour les Jeux de Tokyo ou justement, tu étais tellement dans une façon de voir les choses que tu es comme, non, j'ai vraiment besoin d'aide?
Tu sais, la différence, je pense, c'est j'avais 29 ans. Fait que, tu sais, je pense qu'à 29 ans, tu as aussi une prise de conscience que s'il y a quelque chose qui se dirigeait où est-ce que j'aimais pas ou que j'étais pas confortable,
mais ce que je trouve fou, c'est justement, à 29 ans, tu as été capable de demander de l'aide. Puis je pense que ça, c'est vraiment très inspirant pour plusieurs d'entre nous de savoir reconnaître que là, j'ai un besoin, mm-hmm. puis je suis capable de le nommer, puis de le dire à haute voix à mes coachs, à mon environnement. À quel niveau trouves-tu qu'on pourrait faire mieux dans le sport?
C'est une très bonne question parce que j'ai l'impression que moi, je vis dans un peu un ancien régime qui aujourd'hui est différent. Fait que quand je regarde, mettons, la prochaine génération, c'est pas ce que moi j'ai vécu. C'est vraiment très différent. Pour moi, je pense vraiment que quand quelqu'un montre des signes qu'il a besoin d'aide, ça devrait être offert. Puis, il y a quelque chose que j'ai réalisé avec les années aussi, c'est que ça veut pas nécessairement dire que tu vas cliquer avec cette personne-là qui t'offre cette aide-là. Je pense que c'est ça le point à mettre, à avoir un focus, c'est d'offrir à quelqu'un qui demande l'aide, mais que cette personne-là va se sentir appuyée, va avoir une connexion entre ce professionnel-là qui va se sentir à l'aise, qui va vouloir s'ouvrir, parce que c'est pas facile pour un athlète de s'ouvrir, tu sais. Fait que je pense que si on avait un point à améliorer, ça serait plus ça. C'est donner à une personne, quelqu'un qui va pouvoir trouver une bonne connexion, puis que va rendre l'athlète à l'aise à s'ouvrir, tu sais.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est ça aussi qui fait la magie de comment on peut encadrer, supporter nos athlètes mmh. dans leur santé mentale. Puis je pense que des fois, ça fait peur de juste le trouver, le bon.
Ouais. Ben oui.
J'imagine que tu as trouvé le bon pour te rendre jusqu'à Tokyo. Comment ça a été pour vous de vivre ces Jeux-là en tant que COVID avec Mélissa? Mmh. Toi, sachant que tu t'en allais là, tu t'en allais aux Jeux olympiques vivre tes derniers Jeux,
mmh.
tu savais avant même de partir, là.
Oui, oui.
La dernière fois, oui. Tu reviendrais plus sur un plongeon aux Jeux olympiques.
Oui.
C'était comment cette sensation-là?
On va se dire les vraies affaires, là. C'était pas le fun parce que, tu sais, d'habitude, quand t'es un athlète, tu te dis, ah ben, je vais finir ma carrière, je vais continuer un autre, quelques compétitions histoire de pas finir sur les Jeux olympiques, tu sais. Mais là, on se faisait tellement tout enlever les compétitions, il y avait plus de compétitions que, tu sais, je savais que j'allais pas continuer une autre année pour juste finir en beauté, dire bye bye, puis tu sais, avoir quelques dernières performances sans avoir à me dire aux Jeux olympiques, ça, c'est mon dernier plongeon, à vie. T'sais, fait que c'est ça qui a été très difficile, c'est de d'être là. Puis si j'avais pas eu l'aide que j'ai reçue, d'être capable d'être concentrée sur le moment présent, t'sais, je pense que ça aurait fait... ça aurait pas bien été pour moi, t'sais. Mais je pense que le fait que j'étais capable, c'est beaucoup ça qu'on a travaillé, t'sais, d'être concentré sur le moment présent, pas penser à qu'est-ce qui va arriver dans 2 minutes, t'sais, ou le prochain plongeon.
Ça paraît banal, mais c'est oui. Pas facile à exécuter. Non. C'est vraiment pas banal. T'sais, c'est vivre le moment présent, c'est une chose de le dire, mais de le faire à un haut niveau comme ça, quand t'as toute la pression du monde, les caméras sont là. Mais pour moi, des fois, je trouve que ça m'aidait. Quand j'avais la pression, je me sentais plus dans le moment présent. Est-ce que toi, ça te faisait ça aussi?
Non, je pense que non, parce que comme t'as vu, t'sais, à Rio ou à Londres, je pensais toujours à la répercussion de ma performance. T'sais. Fait que non, je vivais jamais le moment présent. Je vais plutôt dans le futur, dans la répercussion des choses.
Donc, tu as fini ta carrière après 25 ans de plongeon. C'est énorme. Je veux juste savoir, moi, dans toute ta carrière, c'est quoi le moment qui te rend le plus fier?
Tu sais, c'est sûr que j'en ai plusieurs. Tu sais, parce que, mettons, je peux pas nier le fait d'avoir le titre d'être l'athlète la plus décorée du Canada dans les sports aquatiques, tu sais, c'est un très beau titre. L'aspect que, tu sais, quand je performais, mettons, au Paname puis au Commonwealth, puis que je me disais, c'est mon titre à moi, puis je donnais les meilleures performances de ma vie parce que, tu sais, cette journée-là, les étoiles étaient bien enlignées pour que je donne la meilleure performance. Ça aussi, je suis fière, mais honnêtement, mon moment, c'est vraiment ma médaille d'argent au jeu à Tokyo. Puis la raison est parce que ça a été tellement difficile s'y rendre. On s'est fait tout enlever. Tu sais, puis c'était pas juste ça, là, c'était que, mettons, si moi, j'attrapais la COVID, ben Mélissa, elle allait pas au jeu.
Le nombre de sacrifices derrière cette médaille. Oui,
c'est ça. Ouais, le nombre de larmes, l'anxiété, le stress, parce qu'on était comme en bulle, mettons. S'il y avait quelqu'un aux 3 mètres qui tombait malade, ben là, toute l'équipe aux 3 mètres était out, tu sais. C'était vraiment intense. C'était pas le fun. Comme c'est super stressant. Fait que pour moi, quand on a été capable de se donner cette performance-là, puis tu sais, on l'a pas souvent dit, mais Mélissa puis moi, depuis notre première année, en 2017, au championnat du monde, on a fini deuxième, puis à chaque année, on gardait ce titre-là. Fait que pour nous, d'arriver à Tokyo, on était comme, c'est pas vrai que ça fait 5 ans qu'on est deuxième derrière les Chinoises. Fait que pour nous, c'est médaille d'or. Puis on voulait pas une autre médaille, on voulait notre médaille d'argent, tu sais. Fait qu'il y avait toute cette pression-là aussi. Fait que quand on a été capable de vraiment laisser toutes les distractions, tu sais, de côté, de performer comme on l'a fait, pour moi, ça, c'était vraiment le moment le plus glorieux de ma carrière.
Je suis vraiment contente que tu me dises que c'est finalement ta médaille d'argent après tous ces efforts-là, parce que ça démontre à quel point finalement, tu sais, ce qui te rend fier, c'est pas la couleur ou la médaille,
non,
mais c'est le travail que tu y as mis avec Mélissa pour t'y rendre dans tous les plus grands défis, les circonstances les plus incertaines. Vous avez réussi ensemble, pareil, travailler en équipe, puis vous, est-ce que t'avais peur que ça a fait? Je trouve ça tellement inspirant de parler avec Jennifer. C'est étonnant à quel point j'ai l'impression de m'entendre, que je trouve des similitudes entre nos parcours. Je la trouve surtout courageuse. Ça fait tellement du bien d'entendre sa franchise, d'entendre une athlète dire les vraies affaires au sujet du sentiment d'échec qu'on lui a fait vivre si jeune en lui mettant toute cette pression. Heureusement qu'elle a eu le courage de demander de l'aide et de la trouver. Aujourd'hui, Jennifer est une heureuse maman de 2 petits garçons et elle nous raconte à quel point la vie peut être belle après le sport. J'aimerais maintenant qu'on parle de ta transition, parce que maintenant, tu es maman de 2 enfants, de 2 jeunes garçons. Parle-moi de ta transition. Comment tu as réussi à changer en très peu de temps, à devenir mère? Qu'est-ce qui t'a incité à faire une transition aussi rapide?
Fait que dans le fond, moi, j'étais supposée terminer en 2020, j'ai fini en 2021. Fait que il y a eu un an où est-ce que je savais que j'étais prête, puis j'ai pu me préparer. Puis le 3 mois de confinement aussi m'a donné l'avant-goût un peu de qu'est-ce qui allait arriver, tu sais. Fait que j'ai comme eu un genre de préparation dans mon cycle olympique, tu sais. D'habitude, on n'a pas ça.
Une transition assez faite sur du long terme, là.
Oui, c'est ça, oui.
Qu'est-ce qui te stressait le plus de ta transition quand tu regardais les autres, justement, dans leur parcours de transition d'après-carrière?
Ben, c'est de se sentir perdu, tu sais. Je pense que tous les athlètes, la première chose qu'ils disent, pas juste en plongeon, mais c'est vraiment ton identité. Tu sais, c'est de perdre ton identité. Tu sais, en voulant dire, à chaque mois, on voyait mes performances dans les médias. À chaque mois, je partais. À chaque mois, tu sais, on me félicitait pour une performance X, tu sais. Puis là, tout d'un coup, soudainement, c'est silence, tu sais. C'est comme on t'oublie.
Oui, mais d'être devant une page blanche aussi à écrire pour toi.
Ouais.
Puis bref, ça n'a pas été... Donc, ton choix était clair. Comme à quel moment tu savais dans ta vie, dans ta carrière, que tu voulais être mère?
Ah, moi, je le savais, tu sais, avec David, mon fiancé, tu sais, ça faisait longtemps qu'on en parlait d'agrandir notre famille. Tu sais, lui, il a deux enfants aussi, fait qu'on est une famille reconstituée. Fait que j'ai aussi pris goût à la vie familiale, tu sais. Fait que tout ça, pour moi, ça faisait du sens de je termine les Jeux olympiques, puis on fonde notre famille, tu sais, je vais avoir mes bébés à moi, puis agrandir le tout.
Parle-nous justement un peu de ta vie de famille. Est-ce que ça a changé ta façon de voir la vie?
À 100%. Wow. Tu sais, quand on est athlète, être un athlète, c'est très égoïste, tu sais. Tu tournes alentour de soi. T'es fatigué, tu t'en vas dormir à telle heure. Personne ne doit te déranger parce que c'est ton moment à toi de te reposer, parce que le lendemain, tu dois performer, tu sais. Donc, ton sommeil est important. Mais là, maintenant, tout tourne alentour de mes enfants. Pis c'est parfait comme ça, tu sais. J'ai eu mes années à moi. Maintenant, c'est le temps de, mettons, léguer le flambeau, tu sais. Mais c'est vraiment un changement de vie complètement. Tu sais, c'est 360, c'est pas la même game, là.
Puis penses-tu que tes enfants, justement, les avoir eus aussi rapidement après ta carrière, ça t'a aidé dans ta transition?
100%. Je pense que j'ai pas eu... Tu sais, mettons, les 9 mois que j'avais à me reposer parce que j'étais enceinte, tu sais, c'était 9 mois que je prenais pour moi, ce que j'avais jamais eu avant, tu sais. Parce qu'il fallait toujours que je retourne à l'entraînement, fallait que je performe, fallait que je... Fait que là, tu sais, oui, tout le monde était comme, oh mon Dieu, t'es tombée vite enceinte, comme tu voulais pas prendre du temps pour toi. Mais j'ai pris 9 mois pour moi, tu sais, justement, à chérir ce beau moment-là que je suis en train de créer la vie, tu sais. Je pense pas qu'il y aurait une meilleure façon, parce que si j'avais pas été enceinte, j'aurais voulu retourner au travail. Je me serais plus posé des questions sur qu'est-ce que j'aime dans la vie, qui je veux. Tu sais, là, j'avais... Toutes mes pensées allaient à mon bébé, puis ce qui a fait que j'ai été capable de me dire, tu sais, j'ai le temps de me trouver un travail, j'ai le temps de me retrouver, mais là, je prends le temps pour moi de me reposer, de chérir mon maman, mon bébé, sentir les mouvements de mon bébé, tu sais. Fait que pour moi, ça a été la meilleure façon que j'ai pu justement faire ma transition, c'est d'avoir quelque chose de pur, tu sais. Et de vrai.
C'est vraiment beau puis intéressant d'entendre la différence à quel point, finalement, d'être enceinte, ça t'a permis de pas te mettre dans la performance. Puis, parlant aussi d'être enceinte, t'as vécu toute ta carrière devant des caméras en maillot de bain. Ton corps était en avant-plan. Ça reste que ça a dû être une drôle de transition de vivre à être enceinte. Voir ton corps changer. À quel point ça a été difficile pour toi de vivre ces changements-là physiques après avoir passé autant d'années où ton corps était important et jugé?
Oui. Fait que dans le fond, je ris parce que si tu m'avais posé cette question-là, mettons, il y a un an, là, j'aurais jamais été à l'aise de te le dire. Puis aujourd'hui, je suis comme, c'est la réalité. Puis c'est la réalité de beaucoup, pas juste des athlètes, mais de beaucoup de femmes, tu sais. Moi, je suis passée là, d'être dans mon pic olympique là, à être enceinte, tu sais. J'ai passé de me peser puis à dire « OK, il faut que j'arrête parce que là, genre, je perds l'importance. » Tu sais, l'importance, c'est que justement, je dois prendre du poids pour que mon bébé soit en santé, tu sais. Puis mon premier, pour vrai, là, je pense que j'avais au moins 6-7 mois de fête puis ça se voyait même pas, tu sais. Puis je suis arrivée au 7e mois là, puis j'ai juste comme pris genre 30 livres d'eau, genre. J'ai enflé là comme ça se pouvait pas, tu sais. Puis c'est ça qui a été vraiment difficile parce que genre je voulais plus poster des photos, parce que j'étais comme gênée, je me reconnaissais plus, tu sais. Fait que je savais que c'était tu sais, j'étais enceinte et tout, mais ce qui me faisait plus peur, c'est est-ce que je vais revenir normal après? Tu sais, c'était plus ça dans mes pensées, c'était comme, tu sais, je peux pas garder là, toute cette eau-là, là, genre, ça marche pas, tu sais. Fait que, ça pour dire que finalement, on revient normal, puis c'est super beau et tout, mais ça a été quelque chose que j'ai dû, tu sais, travailler beaucoup parce que ça a été, tu sais, c'était pas facile là, de se voir enflé comme ça, tu sais. Quand t'es athlète, tu sais, t'as des ballonnements, t'as des gaz, puis là, on est comme, oh mon Dieu, j'ai l'air d'avoir pris une livre ou deux parce que ton ventre est juste un petit peu plus bombé parce qu'on est, c'est notre semaine de la semaine du mois, tu sais. Versus là, je suis comme juste une boule qui tourne, tu sais. Fait que c'était vraiment, sur le coup, ça a été difficile, mais justement, je pense que c'est tout ça a fait en sorte que je suis capable aujourd'hui de voir la réalité, tu sais, d'être assez terre à terre pour me dire j'ai été capable de donner la vie deux fois. Oui, j'ai pris un peu de poids, mais comme on s'en fout, tu sais, j'ai deux enfants en santé, je vais le reperdre, puis tu sais, il y a plus cette pression là que j'avais, tu sais, de vouloir bien paraître. T'sais.
Qu'est-ce qui te donnait justement du recul pour être capable de te parler comme ça positivement? Est-ce que ta deuxième grossesse t'a aidé justement encore plus à passer au travers ces jugements-là que tu avais finalement qui étaient peut-être automatisés à travers toutes ces années-là?
Tu sais, je pense que les jugements, là, ça peut être des deux côtés, tu sais. Autant se faire dire « Ah, t'es enceinte, ça paraît pas », ben c'est parce que toi, tu le sens pas. Tu sais, ou versus « T'as juste 3 mois, c'est, tu sais, un jugement n'a pas lieu d'être. Ouais. Tu sais, la personne vit un gros changement, que ça soit plus ou moins. Tu sais, c'est déjà stressant d'être enceinte, tu sais. C'est de l'inconnu, t'as un bébé dans toi, tu veux juste qu'il soit en santé, tu sais. Fait que tellement. Pour moi, c'était vraiment, est-ce que mon bébé va bien? Oui. Est-ce que moi, je vais bien? Oui. Personne, on parle pas. T'sais, personne a d'affaires à dire. Ou t'as pris du poids ou oh non, tu sais, ça là après là, tu sais, ça peut s'arranger, tu sais, je peux retourner m'entraîner, je peux avoir un bon équilibre de vie, tu sais, je peux bien me nourrir, je peux retourner au gym, tu sais, j'ai le temps par la suite de retrouver mon corps à moi, mais pour le moment mon corps sert à créer la vie, ça s'arrête là. Wow. Tu sais, parce que tu sais pas ce que la maman elle vit en ce moment, tu sais, peut-être que son bébé ça va pas bien. Moi j'ai été chanceuse, j'ai eu deux belles grossesses, tu sais, mais reste que je le sentais, moi, que j'étais enceinte, tu sais. Fait que me faire dire que ça paraissait pas, ou me faire dire que ça paraissait, je trouve pas que c'est important. Puis je pense qu'elle le fait que j'ai été toute ma vie jugée. C'est un petit jugement, pour moi, c'est un non catégorique tout de suite, tu sais. Fait que quand quelqu'un, mettons, porte attention à ça, ben, tu sais, je me permets de dire, tu sais, même si c'est positif, tu sais pas ce que la personne vit. Peut-être que pour elle, ça l'est pas positif, sa perte de poids ou sa prise de poids, tu sais. Fait qu'on ne juge pas. Tu demandes à la personne, est-ce qu'elle va bien? Oui, je suis contente pour toi.
Amen. Je suis tellement d'accord avec ce que tu me dis parce que je pense que ça réglerait bien des problèmes, oui. Des fois.
Oui, ben, certainement, oui.
Maintenant, tu sais, toi et moi, on se comprend bien là-dessus, mais après avoir vécu 4 cycles olympiques, on a toujours un peu dans la tête une vie basée sur 4 ans. On a un cycle olympique, on a un objectif. Dans 4 ans, ça va à quelque part. Oui. Tu sais, c'est tangible, on a un objectif clair. Puis là, maintenant, d'être dans un environnement où c'est plus ça. Là. Il n'y a plus de 4 cycles. Tu n'as pas un objectif tangible aussi clair dans 4 ans. C'est où tu te vois maintenant dans 4 ans?
Dans 4 ans. Tu vois, je pourrais même pas répondre à ta question. Tu sais, parce que c'est pas que je suis pas capable de me voir. Oui, j'ai une vision, mais ce que je sais, par exemple, c'est que présentement, j'ai mes 2 bébés. J'ai décidé de donner mes 2 premières années à mes enfants, ma famille, dans le fond. Là, c'est le temps, mettons, de me retrouver moi un peu de où je voudrais m'en aller. C'est quoi mes priorités? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? Qu'est-ce qui va faire en sorte que quand je me lève le matin, tu sais, je vais être heureuse? Puis, pour moi, c'est sûr, c'est d'être là pour mes enfants, de pouvoir leur donner un peu ce que mes parents m'ont donné de, s'ils veulent faire du sport, ben, on va t'inscrire dans le sport, puis on va y aller, puis je vais pouvoir t'amener faire ton sport. Tu sais, de les supporter sans leur donner la pression. Effectivement, en étant enceinte, j'ai réalisé que ce qui me manquait, c'est ma mobilité, ma flexibilité. c'est quelque chose que pour moi, ça me donnait une confiance. Je me sentais bien dans moi, ça me procurait une confiance. Quand que je marche, tu sais, ma tête était haute et tout. Donc, c'est exactement pour ça que, entre-temps, j'avais fait ma formation pour devenir instructrice de Pilates. Et là, je suis nouvellement certifiée pour être entraîneur privé. Donc, pour moi, me rediriger vers l'entraînement physique, c'est qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse, parce que un, c'est ce que j'ai connu toute ma vie, d'être en forme. Si je peux transmettre ça à d'autres mamans, c'est parce que si on peut avoir un 30 minutes là, c'est beau, il faut le faire. Puis j'aimerais ça montrer aux mamans que c'est possible, tu sais, d'avoir un 30 minutes à soi, parce que on est tout le temps occupé dans le fond. Ouais. Donc j'aimerais rendre ça accessible à toutes les femmes qui le désirent. En transmettant ma passion à moi de sentir bien dans son corps, tu sais.
Oh, ça me parle énormément, parce que c'est vraiment intéressant de voir à quel point ton objectif d'après-carrière a évolué à travers ces deux dernières années, parce que finalement, tes enfants t'ont aussi appris quelque chose, t'ont appris c'est quoi tes priorités, qu'est-ce que tu veux finalement.
Oui.
J'aimerais en terminant te poser une dernière question. Pour tous les athlètes qui se préparent pour Paris 2024, l'équipe du Canada a lancé la campagne L'Invincible Courage, dans le but de célébrer la bravoure intérieure dont tous les athlètes font preuve lorsqu'ils affrontent des obstacles à travers leur parcours. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être courageuse en tant que femme et athlète?
Tu sais, ça signifie beaucoup parce que, tu sais, les gens ont aucune idée comment ça peut être difficile. Tu sais, les gens ont aucune idée du travail derrière tout ça. Tu sais, derrière chaque performance au jeu, là, que ce soit en préliminaire, en semi-finale ou en finale, tu sais, il y a une histoire derrière ça. Il y a une histoire de qu'est-ce qui fait en sorte que ce Canadien ou Canadienne-là est là en ce moment. Ben, c'est à cause de son histoire. Puis ça, c'est encore plus beau que la performance. Puis, tu sais, pour moi, ça signifie que c'est avec tout ce qu'on a vécu, la COVID et tout, que là, on peut maintenant enfin mettre ça derrière nous. Ben, tu sais, il est temps à ce que les athlètes, tu sais, se concentrent et retrouvent leurs Jeux olympiques, les Jeux olympiques d'une façon normale, tu sais. Puis de le chérir. Parce que les derniers, c'était pas pareil.
J'ai vraiment eu du plaisir à parler avec Jennifer et d'avoir la chance de mieux la connaître et de mieux comprendre son parcours. J'ai surtout aimé l'entendre dire aujourd'hui « Je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. » Wow! J'ai aussi adoré découvrir comment pour ses derniers Jeux, elle a réussi à retrouver sa passion, son plaisir de sauter dans l'eau comme quand elle avait 6 ans. Ce qui m'a marqué aussi, c'est d'apprendre comment elle vit sa transition d'après-carrière, comment son rôle de mère l'a aidée à vraiment prendre du temps pour elle et de tranquillement se redécouvrir. Je suis certaine qu'elle va en inspirer plus d'un avec la manière dont elle a abordé sa transition avec autant de joie et de sérénité. Si vous avez aimé cet épisode, attribuez une note et ajoutez un commentaire, c'est le meilleur moyen de soutenir le balado. Pour suivre les histoires et les résultats d'Équipe Canada aux Jeux de Paris et ailleurs, téléchargez l'application Olympique d'Équipe Canada. Visitez le site olympique.ca ou suivez Équipe Canada sur les réseaux sociaux. Pour visionner des extraits de tous les épisodes de Propulsion, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Équipe Canada. À bientôt!